cette année 2018, on commémore les 50 ans d'une révolte des étudiants et ouvriers français, connue sous le nom de mai 68, alors que gouverne la France le héros de la Deuxième Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle. Ainsi résume en quelques minutes ce que fut mai 68, le programme pour jeunes, un jour, une question.
Au printemps 1968, la France connaît de gigantesques grèves. 9 millions de personnes défilent dans les rues. Ils se révoltent pour obtenir plus de droits et plus de liberté. Mais que s'est-il passé en mai 68? À cette époque, le général de Gaulle dirige la France depuis 10 ans. Sa politique est conservatrice. Il représente un monde à l'ancienne. Pour certains Français, il ne les comprend plus. Il demande plus de liberté et plus d'égalité entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes. Dès mars, les étudiants occupent les facultés à Paris. Leur slogan ? Prenez vos désirs pour la réalité, ou il est interdit d'interdire. Et à partir du 13 mai, les étudiants sont soutenus par des ouvriers qui font grève pour obtenir des augmentations de salaire. Tout le pays s'enflamme. Puis ce sont les cheminots, les employés, les journalistes qui se joignent au mouvement. Usines à l'arrêt, trains immobilisés ou télévision sans émission. La France est paralysée. Les Français, eux, sont divisés. Certains soutiennent la révolte, d'autres la politique de De Gaulle. Ce dernier décide d'envoyer des CRS affronter les manifestants. Sans succès. Alors, De Gaulle négocie un accord avec les ouvriers. Mais, affaibli politiquement, il démissionnera l'année suivante. Cet immense mouvement social et politique a bouleversé la France au XXe siècle et changé l'état d'esprit des Français.
Les premiers incidents annonciateurs de la crise se produisent début 1968 à la faculté de Nanterre, où naît le mouvement du 22 mars, conduit par Daniel Cohn-Bendit. Quand l'université est fermée le 2 mai, l'agitation se déplace au centre de Paris. Ce qui n'était qu'une série d'incidents devient une crise nationale. Tout bascule le 3 mai quand la police intervient brutalement pour disperser un meeting tenu par les étudiants dans la cour de la Sorbonne. La révolte commence dans les rues du quartier latin. Barricades, pavés, cocktails Molotov, charges des CRS, matraques et gaz lacrymogènes. Les affrontements s'amplifient de jour en jour et le mouvement s'étend au lycée et dans les usines. Parmi les ouvriers, le mécontentement est bien présent, comme le manifestent ces salariés des usines Renault de Billancourt.
Vous êtes mécontent de votre condition d'ouvrier, j'imagine.
Oui, c'est que les cadences sont déjà trop fortes, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille, et puis question de liberté syndicale et tout. Alors, y a déjà le truc qui nous plaît pas, c'est pour les déclassements.
Combien vous gagnez par mois?
Je faisais 110 000. 105 et j'étais déclassé, j'en fais plus que 80. Je travaillais en équipe, maintenant je travaille en normal et puis...
Vous êtes marié?
Oui, marié, deux enfants.
Alors, votre salaire ne vous suffit pas, bien sûr.
Non, pas du tout. C'est pour ça que il faut que ça dégage pour qu'on ait autre chose. C'est tout à fait normal.
Qu'est-ce qui gagne moins de 100 000 par là?
Vous en avez la majorité.
On est tous. C'est pour ça qu'on réclame.
Vous avez 5 gosses et vous gagnez combien?
90. Je travaille chez Renault, je travaille sur l'île, à la chaîne.
Est-ce que le travail est très dur?
Un petit peu. Ça pourrait être dur, il est dur. Mais le boulot, le pognon n'est pas dur parce qu'il ne vient pas beaucoup.
Il n'y a qu'à demander un jour au comité d'entreprise qui vous envoie dans les endroits où ils montent les 4L. Puis vous verrez les boyaux où les gars ils sont obligés de passer 8 et 9 heures par jour.
Ils n'ont pas le temps de pisser,
pour des petits salaires de misère, des salaires de misère. Alors c'est normal que maintenant, il y a des gens qui veulent se révolutionner. C'est normal, c'est tout à fait logique. Pour faire travailler tous les 700 et quelques mille jeunes qui n'ont pas de boulot, à foutre la retraite à 60 ans pour faire de la place aux autres, vous voyez le problème, il est vaste.
Vous avez des vieux qui tiennent plus de sauf debout. Et ils travaillent pour pouvoir se nourrir, parce que avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, c'est pas beau. Non. Alors on demande la retraite à 60 ans et 55 pour les femmes.
Ça doit être dur pour vous une grève comme celle-ci.
Oui, ce que vous voulez, on est obligé. Si on le fait pas, qui c'est qui le fera pour nous?
C'est pas par plaisir.
On le fait pas par plaisir, on le fait c'est pour avoir quelque chose. J'espère qu'on l'aura, et on l'aura. On tiendra le coup, mais on l'aura. Voilà. C'est ce qu'on veut. On vous fera peut-être des pavés, on les fera bouillir un petit peu plus, et on tiendra le coup.
Décidez à tenir jusqu'au
bout. Si on n'y était pas, on n'y aurait personne ici. On est tous décidés à faire, de tenir le coup jusqu'au bout.
Le point culminant est atteint dans la nuit du 10 au 11 mai. Étudiants et CRS s'affrontent en de véritables combats de rue. Voitures incendiées, rues dépavées, vitrines brisées avec un lourd bilan de centaines de blessés. Le 13 mai, à Paris et dans toute la France, les syndicats manifestent avec les étudiants pour protester contre les brutalités policières. Et le lendemain démarre une vague de grève. À la révolte étudiante succède une véritable crise sociale. Le pays se retrouve paralysé. Dans les usines, les bureaux, les services publics, les transports, tous arrêtent le travail. Voici un résumé de ces jours de furie vus par les actualités françaises et regroupés par les archives de l'INA.
"180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. 9 jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, des cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Le lendemain, à 17h, la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. 3000 CRS et gardes mobiles avaient pris place au quartier latin. L'escalade était engagée. Une semaine impitoyable commençait. Daniel Cohn-Bendit et 7 autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations, dont 31 maintenues. Une nouvelle manifestation organisée pour protester contre la fermeture de la Sorbonne et les arrestations groupe 20 000 étudiants. Le défilé dans Paris dure 5 heures sans incident.
Demandez le manifeste de la Fédération des étudiants révolutionnaires.
L'UNEF et le SNESUP ont donné rendez-vous aux étudiants à 18h30 à la Halle aux Vins. Au milieu des étudiants, un prix Nobel, Alfred Castelet. À l'Assemblée nationale, le ministre, M. Perfit, a envisagé la réouverture des facultés.
Il est clair que ce qu'il s'agit de reprendre, ce sont des cours. Ce ne sont pas des manifestations de violence dans les amphithéâtres. Une telle mesure ne peut pas être prise dans un climat de désordre et de violence.
Au quartier latin, le préfet de police est venu vérifier le dispositif. On craint un assaut de la Sorbonne. Mais la manifestation s'achève sans incident. On espère. À la Sorbonne, le recteur Jean Roche annonce que la reprise des cours ne pourra se faire que progressivement. La Sorbonne reste fermée et gardée. Assis sur la chaussée, 3000 étudiants déçus écoutent les commentaires de Daniel Cohn-Bendit. C'est la journée de la déception. La faculté de Nanterre est ouverte. Peu de cours, peu de lettres. Les étudiants n'ont pas cherché à occuper la fac. Le calme règne. La Sorbonne, quant à elle, est toujours bien gardée. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. Le dispositif, cependant, est renforcé à la Sorbonne. Des milliers de policiers quadrillent systématiquement les alentours. À d'Enfer, un mot d'ordre a été lancé. Occuper le quartier latin. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction. Les négociations commencent et dans la nuit, la tension atteint son point culminant. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction. C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. Et tout au long de la nuit, les secours aux blessés poseront un grave problème. L'aube s'est levée sur un spectacle désolant. On évacue encore des étudiants blessés. Un prix Nobel n'a cessé de s'occuper d'eux, le professeur Monod. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Entouré du secrétaire général du SNESUP et de Cohn-Bendit, le vice-président du LUNEF réaffirme trois objectifs.
Nous disons de façon extrêmement claire que nous avons nettement défini quels étaient les trois points à partir desquels, une fois ces points admis, pourrait s'engager une négociation, c'est-à-dire amnistie de tous les manifestants condamnés, arrêt des poursuites judiciaires, administratives et universitaires. Deuxièmement, réouverture des facultés. Troisièmement, disparition des forces de police, des universités et des quartiers universitaires.
Un problème qui se pose avec d'autant plus d'ampleur que 460 arrestations ont été opérées à la suite de la nuit des barricades. Les syndicats ont décidé une grève générale pour le lundi suivant. L'apaisement, cependant, viendra le soir avec l'initiative que prendra le Premier ministre à son retour d'Iran et d'Afghanistan.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi, également, la cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés.
Journée de répit, journée de la méditation. Les Parisiens que l'événement a bouleversés sont venus visiter le quartier latin. Les forces de police quittent le périmètre de la Sorbonne. La vieille faculté rouvre ses portes. Les ponts, cependant, seront encore gardés. L'ordre de grève a été maintenu par les quatre grandes centrales syndicales. Plusieurs centaines de milliers de personnes défileront de la place de la République à Denfert-Rochereau. En passant à l'hôtel de ville, elles apprendront la libération des quatre étudiants emprisonnés.
Le 24 mai, lors d'une allocution télévisée, le général de Gaulle annonce la tenue d'un référendum sur la rénovation universitaire, sociale et économique, menaçant de se retirer en cas de victoire du non. Quelques jours plus tard, le 29 mai, le président de Gaulle disparaît de l'Élysée pendant plusieurs heures, créant un sentiment d'affolement dans la population. Le lendemain, dans une brève allocution radiodiffusée, il annonce la dissolution de l'Assemblée et la tenue d'élections anticipées.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national.
lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rancard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France!
La manifestation organisée le soir du 30 mai par les gaullistes sur les Champs-Élysées rassemble 500 000 personnes. Avec la perspective d'élection, la crise s'estompe. La reprise du travail s'opère lentement. Les événements de mai et juin se soldent avec la mort d'au moins 7 personnes et des centaines de blessés graves dans les affrontements. Ainsi se termine ce bref compte-rendu des événements qui ont ébranlé la France au printemps 1968 et qui finalement feront tomber le gouvernement de De Gaulle le 28 avril 1969. Demain, nous allons passer en revue quelques-unes des chansons qui rendent hommage à ces journées de barricade des étudiants et ouvriers français. En attendant, partageons « Il est 5 heures, Paris s'éveille » de Jacques Dutronc, l'un des hymnes adoptés par les jeunes de mai 1968.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.